Mon nom est Monique Vincent. Bienvenue au Petit carnet de l'aidant, une série de 12 balados rendus possible grâce à l'ASF Lanaudière et le soutien financier de l'appui pour les proches aidants. Le Petit carnet de l'aidant aborde différents sujets concernant les impacts financiers et fiscaux reliés à la situation des proches aidants et offre également un aperçu des documents légaux qui pourraient leur être utiles. Pour nous outiller aujourd'hui, nous accueillons Marie-Josée Ouimet, conseillère budgétaire à l'ASF Lanaudière. Bonjour Marie-Josée.
Bonjour.
Être proche aidant, c'est prendre soin de la personne aidée avec cœur et amour. Mais quand l'état de santé de la personne aidée change, que les soins personnels représentent un nouvel enjeu, que la santé et la sécurité de la personne aidée vous préoccupent, il est important de se faire confiance et surtout de respecter ses propres limites. Et Marie-Josée, je dirais qu'il faut se souvenir que le rôle de proche aidant ne se limite pas à offrir son aide au domicile de la personne aidée.
Effectivement. Même si un déménagement dans un milieu de vie mieux adapté à sa réalité s'impose, le lien aidant-aidé va quand même rester.
Au Québec, on classe les hébergements pour aînés en 5 catégories. Les CHSLD, publics, privés, conventionnés ou non, les RPA et les RI, de quoi nous donner des maux de tête quand on ne s'y connaît pas dans le domaine? Marie-Josée, pouvez-vous nous aider à démêler tout ça?
Oui. Les hébergements pour aînés sont catégorisés en fonction du type de clientèle, premièrement, donc autonome, semi-autonome ou en perte d'autonomie, mais aussi du nombre d'heures de soins que la personne a besoin par jour. Les CHSLD, ce qui veut dire centre d'hébergement de soins de longue durée, offrent tous les mêmes services. Gîte et nourriture, soins d'assistance, surveillance, soins infirmiers et médicaux, services pharmaceutiques, services psychosociaux et finalement services de réadaptation. Les bénéficiaires des CHSLD sont généralement en perte d'autonomie physique et ou psychologique, donc non autonomes et requièrent plus de 3 heures de soins par jour.
Et ça, les CHSLD, c'est l'exercice de diction de nos dirigeants actuellement.
<Oui. rire>
Mais quelle est la différence alors entre les CHSLD publics ou privés, conventionnés ou pas?
Les CHSLD publics et privés conventionnés sont des établissements entièrement subventionnés par le gouvernement. Le bénéficiaire doit quand même contribuer financièrement pour son hébergement et sa nourriture, puis cette contribution-là est établie par la Régie de l'assurance maladie du Québec, qu'on dit la RAMQ, en fonction de ses revenus, de ses actifs aussi.
Mais qu'est-ce que vous voulez dire exactement, c'est établi en fonction des revenus et des actifs de la personne? Ça veut dire quoi en clair?
Ce que ça veut dire, dans le fond, c'est que dépendamment des revenus et des actifs qu'une personne va avoir, il va avoir un montant qu'elle va devoir contribuer pour résider en CHSLD. Par contre, il y a un montant maximal qui est fixé par la RAMQ et révisé à chaque année. Si on parle, par exemple, pour aujourd'hui, en 2021, le coût maximal pour une chambre privée est un peu plus de 1 960 $ et 1 640 $ pour une chambre avec 2 lits.
Et il faut quand même prévoir ces montants-là parce que c'est quand même des bons montants là, dans notre budget.
Oui.
Mais qu'en est-il des CHSLD privés non conventionnés, donc non subventionnés?
Pour ce qui est des privés non conventionnés, eux, bien, ne sont pas subventionnés par le gouvernement. Ça veut dire que chacun est libre de fixer leur prix et leurs critères d'admissibilité. Par contre, il faut savoir que le contrôle de la qualité des services de l'établissement est régi par les CISS, les CISSS, qui veut dire Centre intégré de santé et services sociaux de la région.
Ah oui, les fameux CISSS. Après CHSLD, c'est notre autre exercice de diction.
Oui.
Et sur le site de la CEF, il y a quand même des informations qui peuvent nous aider. Comment ça fonctionne exactement?
Oui, tout à fait. Si vous allez justement sur notre site Internet à aceflanaudière.ca, vous allez voir une section qui s'appelle « Documents et outils ». Et dans cette section-là, il y a un onglet qui se nomme « Calculateur ». Donc, de là, vous allez trouver un lien vers l'outil de simulation de la RAMQ pour calculer la contribution financière d'un adulte dans un établissement de santé au Québec en soins de longue durée.
Et pour vous qui écoutez cette balado aujourd'hui, je peux vous dire que allez visiter le site de l'ASEF parce que c'est vraiment une mine d'or pour nous aider dans différents domaines. Et qu'en est-il des résidences pour personnes âgées qu'on appelle les RPA? Est-ce qu'elles sont également subventionnées?
Les résidences privées pour aînés doivent obtenir un certificat de conformité qui est délivré par le ministère de la Santé et des Services sociaux. La gestion de la résidence se fait entièrement par le propriétaire et n'est pas subventionnée. Je tiens par contre à apporter une précision importante. Certificat de conformité n'est pas nécessairement un gage de qualité de l'endroit.
Ah bon? C'est intéressant à savoir
oui,
ça.
Oui, oui. Dans le fond, ce que ça veut dire, ce certificat-là, c'est que ça signifie que la résidence offre des services dans au moins deux des catégories suivantes. Je vais vous les nommer. Il y a le service de repas, service d'assistance personnelle, soins infirmiers, service d'aide domestique, service de sécurité et service de loisirs.
Deux de ces catégories-là.
Deux de ceux-là, d'accord, effectivement. D'accord. C'est possible de vérifier le certificat de conformité d'une résidence sur le site web du registre des résidences privées pour aînés. Les RPA sont pour une clientèle autonome ou semi-autonome, ce qui veut dire que les personnes qui y résident ont besoin de 2 heures ou moins de soins par jour, vu que c'est privé, encore une fois, c'est administré de façon indépendante et c'est eux qui fixent leur prix pour leur service qu'ils offrent.
C'est très important de savoir ça quand on recherche justement une résidence pour nos proches. Et Marie-Josée, durant la pandémie de la COVID-19, il était souvent mention de ressources intermédiaires.
Oui, les RI. Donc, les ressources intermédiaires sont des milieux de vie spécialisés en partenariat avec le secteur public et le secteur privé. Autrement dit, ces résidences offrent des services adaptés aux personnes qui leur sont confiées par le réseau de la santé et des services sociaux. Ici, les résidents âgés, bien qu'ils soient en perte d'autonomie liée au vieillissement, n'ont pas besoin d'autant d'heures de soins par jour que ceux qui sont offerts en CHSLD. On parle alors de 1 heure et demie à 3 heures de soins par jour. Comme pour les CHSLD publics et privés conventionnés, c'est la RAMQ qui administre le programme de contribution financière des résidents, comme on a parlé un petit peu plus tôt.
Donc, je constate que les types d'hébergements sont nombreux et répondent tous à des besoins différents, donc d'où l'idée de bien se renseigner oui. Là, quand on cherche une résidence. Avez-vous des trucs à nous donner pour permettre aux personnes aidantes de judicieusement accompagner la personne aidée dans son choix de résidence?
Bien, tout à fait. Pour ce qui est des RPA, ce que je vous conseillerais d'abord, c'est de visiter plus d'une résidence. Donc, idéalement, 2-3 résidences pour se faire une idée un peu là, de qu'est-ce qu'on recherche.
Même au niveau de l'ambiance, dans le fond, de la résidence.
Ben oui, tout à fait, tout à fait. Aussi, ben comme vous parlez de s'informer au niveau de l'ambiance, ça peut être une bonne idée de discuter avec les résidents ou même de demander de manger un repas sur place.
Très bonne idée.
Pour savoir justement comment ça se passe. Un autre conseil que je pourrais vous donner, c'est de s'informer au niveau des règlements d'immeubles parce que c'est tous différents. Hein? Comme par exemple, si on a un animal de compagnie, est-ce qu'on a le droit de l'apporter avec nous ou on doit s'en départir?
Ah oui.
Ensuite de ça, ben ça pourrait être une bonne idée de prendre une marche dans le quartier, savoir qu'est-ce qui est à proximité. Est-ce qu'on a une épicerie, un guichet automatique, tu sais, pour être capable de
les
faire ses commissions
à
pied.
Facile.
Oui, effectivement.
Oui, oui, oui.
Pharmacie également. S'informer sur les ressources disponibles à l'interne pour peut-être éviter de changer de milieu de vie si on perd un petit peu d'autonomie. Par contre, je vous rappelle, comme on disait tantôt, dès qu'on tombe à plus de 3 heures de soins par jour, bien là, c'est inévitable, c'est les CHSLD à ce moment-là.
Oui, parce que ce ne sont pas toutes les RPA, donc, qui ont tous les services. Parce que souvent, les gens pensent que tous les services sont offerts, la pharmacie, le dépanneur et tout ça, mais pas nécessairement.
Non,
il
effectivement.
Il faut s'informer là-dessus.
Oui, tout à fait. Puis, comme dernier conseil, ce que j'aurais tendance à vous suggérer, c'est de penser à long terme. Est-ce que vous voyez vivre là? Et dans 5 ans, dans 10 ans, vous voyez-vous encore vivre là? T'sais, c'est super important. Aussi, pour aider les gens dans leur recherche de résidence, la CEF offre un guide complet sur notre site web, encore une fois, sous l'onglet « Documents et outils ». Dans le guide, on y retrouve des grilles budgétaires pour savoir c'est quoi le budget que la personne dispose pour demeurer en résidence. Puis, on a aussi une grille d'aide à la décision qui peut faciliter le choix pour la résidence. Je voulais juste mentionner qu'on a aussi une version papier s'il y en a qui ne sont pas habiles avec Internet, juste à communiquer avec nous, puis ça va nous faire plaisir de vous acheminer cette version-là. Puis, on y retrouve également une liste de choses importantes à vérifier lors de la visite de la résidence, comme par exemple, est-ce que la présence sous... Est-ce qu'on peut avoir une unité d'air climatisé sur place ou est-ce qu'il y a un poste de sécurité également, des choses comme ça.
Oui, parce qu'avec la dernière année, on a vu que les gens, souvent, qui n'avaient pas accès à un air climatisé, avaient souvent des problèmes là, au niveau de la chaleur dans leur appartement. Merci, Marie-Josée, pour votre aide. Dans la prochaine page du carnet, on s'informe des crédits d'impôt pour proche aidant. Mon nom est Monique Vincent, et comme un proverbe chinois le dit si bien, servir et aider les vieillards est le premier point de l'honneur et de la civilité. On se quitte sur ces bonnes paroles, au plaisir de vous retrouver pour une prochaine balado.